pour les Thalas, c'est magnifique d'accueillir le père Imbrecht, de prénom Thierry Dominique. Quelle rime trouvée en Echt. Cela va faire 40 ans que vous êtes dominicain. Vous êtes prof depuis longtemps et expert de Thomas d'Aquin. Ce soir, c'est sur ce même auteur que vous voulez parler, mon père, et sur les mots « Toi seul, Seigneur », en lien avec les fins dernières.
Bonsoir, chers amis. Vous n'avez pas de table, ça va être plus difficile de dormir pour vous. Toi seul, Seigneur, vous le savez peut-être, cela fait allusion à la petite anecdote d'un Thomas un peu en fin de carrière, qui est comme Don Camillo à genoux devant le crucifix de l'église, de je ne sais pas trop quel couvent, et le Christ s'adresse à lui en lui disant « Tu as bien parlé de moi, Thomas, que veux-tu pour ta récompense ?» Et il répond « Toi seul, Seigneur. » Et ça a souvent été interprété, en tout cas moi j'adhère tout à fait à cette interprétation. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est que Thomas ne demande pas, vous voyez, le détail de la vie spirituelle. Vous voyez, j'aimerais passer à la demeure spirituelle suivante, parce que je plafonne dans la numéro 5, j'aimerais passer à 6, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Il ne demande pas quelque chose pour lui, il ne demande pas quelque chose même pour sa vie spirituelle. Sa réponse est entièrement jetée en Dieu lui-même. Elle s'intéresse à lui, Dieu, pas à lui, l'homme spirituel amoureux de Dieu. En cela, il est un médiéval et pas un moderne, et c'est tout à fait passionnant. Mais je crois aussi que ça dit bien ce qu'il est, lui. C'est-à-dire, pour lui, ce qui compte, c'est le Christ, c'est Dieu, et non pas lui-même en train de s'échiner à cheminer vers son Seigneur. Ça n'a pas grande importance. Il ne se méprise pas. Jamais il y aura le thème du néant. Ça, ce genre de truc, ça n'intéresse absolument pas. Ce genre d'excès rhétorique ne l'intéresse pas. Mais en revanche, quand le Christ, admettez tout de même que ça n'arrive pas tous les jours, même si ça lui est arrivé plusieurs fois, lui demande, lui pose cette question, il répond direct, « Toi seul, Seigneur, j'ai consacré ma vie à toi, c'est toi qui m'intéresse. » Et donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que, à la fois, c'est les fins dernières, c'est ça, retourner vers son Seigneur, et je pense que cela colore la façon dont il a écrit cette élogie. À son époque, pas seulement lui, mais on ne parle pas de soi, on ne parle pas de soi en cours de chemin vers Dieu, on parle de Dieu. Vous voyez, on s'arrime au but, et à celui qui est notre terme, sans s'attarder, au fond, sur les phénomènes de la subjectivité. Les vertus occuperont 2000 pages. Donc c'est quand même de la subjectivité, si on veut, puisqu'il s'agit de construire la personne humaine. Mais pas la subjectivité du spirituel. Ce qui compte, c'est de parler de Dieu, pas de parler de soi en train de parler de Dieu. Et ça, c'est une certaine éthique, une non-spiritualité qui marque l'ordre dominicain, comme ça a pu marquer d'une autre façon les bénédictins, qui n'ont aucune spiritualité, ils chantent les psaumes, point. Ils chantent les psaumes, vraiment, ils énoncent la parole de Dieu. Il n'y a pas de retour sur soi, vous voyez, de retour sur investissement, qui marquera la période moderne, enfin, qui est signalée traditionnellement par le XVe siècle et l'imitation de Jésus-Christ, où pour la première fois, il y a tout un livre en forme de dialogue entre le Christ et l'âme. Avant, on s'intéresse qu'au Christ. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce titre, puisqu'on m'en avait demandé un, et c'était pour vous signaler que lorsque Thomas d'Aquin va parler des fins dernières, il va en parler sur ce ton, c'est-à-dire il va parler des choses. Alors, en essayant de distribuer mon propos, deux hésitations m'ont habité. La première hésitation touche à l'apport propre, supposé, de Thomas d'Aquin sur la question des fins dernières. Sous l'aspect et le contrôle de la foi catholique, saint Thomas n'a rien à dire d'autre que ce que l'enseigne l'Église elle-même, telle en tout cas qu'elle l'enseigne à son époque, avec par conséquent le risque d'ouvrir une série de redondances, vu le thème que vous avez choisi, à mesure que vous allez aborder, j'imagine, des grandes figures de spirituels, sous le rapport de la foi, j'espère, ils vont tous dire la même chose. Sinon, ça craint. un peu. Mais cela me permet, je crois, de glisser une distinction capitale qui pourrait rester fixée dans vos esprits pour d'autres usages. Il y a la vérité de la foi et la vérité de la théologie. Et ça n'est pas sur le même plan. Elles ne sont pas du même ordre. Elles sont censées se superposer et sans heurts. Et la théologie peut, dans une certaine mesure, élargir son champ, progresser. Mais au nom de la foi et dans la foi, jamais à côté ni contre la foi. Et surtout, si elles ne sont pas du même ordre, c'est parce que la vérité de la foi concerne les énoncés de la vérité révélés par Dieu, dans et par l'Écriture, et véhiculés par la tradition de l'Église. On est dans le dur, si vous voulez. La foi ne bouge pas. Elle se découvre avec un certain progrès, mais elle n'évolue pas, la foi, et elle est normative. Alors, vous êtes croyant ou non, mais ce qui est intéressant ici, c'est le principe interprétatif. Du point de vue catholique, la vérité révélée en tant que révélée est première en tout. Elle est normative pour la foi des croyants. Elle est donc commune à tous les catholiques, et de ce point de vue, elle ne se discute pas. Elle préside, si vous voulez. Elle se traduit pour l'essentiel par des énoncés non moins communs. Ben, le credo à la messe, c'est un résumé catéchétique, si on veut, de la foi de l'Église, même si le credo utilise, par la force des choses, des mots non bibliques, plus précis, plus techniques, qui furent éprouvés par les conciles et les théologiens, et on a pu s'étriper entre évêques, gentiment, mais enfin, il y a eu des morts quand même, à plusieurs conciles sur certains mots du credo. Et je bénis la nouvelle traduction du Missel d'être enfin revenu à consubstantiel, parce que le verbe consubstantiel au Père, ça veut dire qu'ils sont un seul individu quand même, il y a un seul Dieu. C'est un peu rassurant, alors qu'être de même nature, ben nous sommes de même nature, nous ne sommes pas... Donc, par hasard, il se trouve que le credo commençait par l'affirmation d'un seul Dieu, mais comme ensuite leur soudure n'était pas dite, les musulmans ont failli avoir raison pendant 50 ans, nous adorons trois dieux, nous sommes polythéistes. Les méfaits des traductions françaises de la liturgie dans les années 70 devront un jour être sanctionnés rudement. Nous avons gardé nos instruments d'inquisition. Il suffit de les huiler et de les entretenir. Ça pourrait servir un jour. Donc, la vérité de la foi est normative. En revanche, c'est ça que je voulais vous dire, la vérité de la théologie, aussi vraie qu'il soit souhaitable qu'elle devienne la théologie, se situe un cran en dessous. Sous le rapport où la théologie traduit la foi, la transmet telle qu'elle, la répète, l'inclut dans son propos, bah elle véhicule la vérité de la foi elle-même. Bon, comme un grumeau, si vous voulez. Mais sous le rapport où la théologie fait usage de la raison et de la culture, elle ajoute un paramètre humain qui lui confère un statut de vérité non moins humain. Jamais une théologie ne sera normative de ce point de vue. Et je pense qu'il est très important pour vous que vous appreniez mentalement à hiérarchiser, à voir les différents plans. Conséquences. Premièrement, jamais aucun discours théologique, fût-il de Thomas d'Aquin, pourtant placé au pinacle, ne relève comme tel d'une vérité à croire, même s'il fait tout pour lui correspondre. Il n'est qu'un théologien. Deuxièmement, jamais aucune hypothèse théologique n'aura rang de vérité de foi, tant qu'elle demeure au niveau de l'hypothèse. Comment dirais-je, il peut y avoir des questions théologiques et des hypothèses qui, justement, veulent essayer de comprendre mieux la foi, de la détailler, de l'expliciter. Donc, un jour, ce qui n'était qu'une hypothèse est accepté comme une explicitation de la foi elle-même. C'est donc la foi qui devient normative, si vous voulez. La chose se renverse. Mais, vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'il faut arriver à expliciter la foi elle-même. La théologie n'est qu'un instrumental, de ce point de vue. Aucune thèse théologique ne saurait, alors à plus forte raison, contester les énoncés de la foi dès lors que ceux-ci ont été reconnus par l'Église pour traduire la vérité révélée et reçue par l'unanime tradition ininterrompue. C'est quand même un critère. Alors, les énoncés d'ailleurs de la foi peuvent être ou ne pas être sanctionnés par une déclaration dogmatique. Il ne faut pas aller à la chasse aux papillons des définitions dogmatiques. Il n'y en a pas beaucoup, hein, finalement. Le Christ est ressuscité, c'est le fondement de notre foi, n'a jamais fait l'objet d'une définition solennelle infaillible. tout d'un coup, il y a le plancher qui se dérobe. Ah oui, ah bon ? Vraiment ? Mais non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. C'est à ce point la base de la foi que et l'expression pour dire la résurrection est tellement simple, dès qu'on a compris le sens des mots, qu'il n'y a pas besoin d'une définition. N'oubliez pas qu'une définition est infaillible, non pas sur ce qu'elle dit, qui est censé être déjà vrai, mais elle se rend infaillible sur la façon de dire. L'infaillibilité porte sur la manière de dire. Il n'y a aucune faille dans la manière de dire la vérité de la foi. La vérité de la foi est déjà là. C'est déjà vrai. Ça n'est déjà que vrai, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a si peu de définitions et qu'il faut prendre garde de ne pas trop en faire, parce qu'il faut qu'il n'y ait aucun interstice dans la formulation. Ça touche à la formulation de la vérité de la foi. C'est la vérité de la foi qui commande. Troisièmement, tant et si bien qu'il peut se trouver qu'une hypothèse théologique apparemment burinée par plusieurs siècles même ne soit pas reconnue finalement comme appartenant à la foi de l'Église, ou bien ne le soit plus, comme c'est le cas dans le domaine qui nous occupe, les limbes, l'épectase, c'est-à-dire le fait qu'une fois dans l'éternité, il y a une sorte d'intensification de progrès dans la béatitude, ou la peau catastase, c'est pas une maladie de la peau, c'est la rédemption finale de Satan. Hypothèse qui a, entre Victor Hugo et d'autres plus sérieux, a pu se promener. De façon générale, d'ailleurs, permettez-moi un conseil latéral, là aussi, allez aux meilleures sources, hiérarchisez les vérités. Ne courez pas après ce qui est spectaculaire ou émoustillant, y compris d'ailleurs parfois chez des spirituels, par ailleurs très sérieux, mais dont le témoignage n'est que presque privé. Vous voyez, enfin, c'est pas de même valeur. Tout n'est pas sur le même plan. Donc je reviens à mon propos initial, distinguons vérité de la foi et vérité de la théologie. Alors pour saint Thomas, la vérité de la foi est évidemment supposée. Lui dépend, pour certaines choses, de la théologie de son temps. Je dis il en dépend au sens où c'est un peu négatif, c'est-à-dire on voit qu'il y a des conditionnements culturels de son temps. Son propre projet théologique, et la façon dont il l'écrit, peut néanmoins enrichir la manière de parler des choses qui concerne ce bloc qu'il appelle la religion chrétienne, on dirait une expression pré-calviniste, c'est assez drôle, au début de la somme de théologie, mais qu'il appelle la doctrine sacrée. C'est une expression, pour nous, qui sonne un peu curieux, qui n'équivaut pas à la théologie. On a pu se tromper. Somme de théologie, son maître ouvrage, c'est d'ailleurs un titre postiche. Ce dont il parle, c'est de la doctrine sacrée, c'est-à-dire d'un ensemble beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste, qui comprend d'abord, justement, la foi révélée, transmise par les conciles, les enseignements de l'Église, ensuite par les docteurs, disons les pères de l'Église, et le travail de la raison, que nous pourrions appeler théologie. Mais le travail de la raison que nous pourrions appeler théologie, voyez, ça n'est que l'ultime fonction. La doctrine sacrée, c'est celle qui s'appuie sur la révélation, et c'est d'elle qu'il va parler. Donc elle contient tout, et elle juge de tout, elle juge d'ailleurs tout ce qui est dedans. C'est pas mon sujet ce soir, mais je retravaille ces choses-là en ce moment. Quand Thomas se demande si la doctrine sacrée, la doctrine sacrée s'appuie immédiatement sur la révélation divine. Dieu a ceci de particulier qui s'imprime dans l'âme. Il donne la foi, si vous voulez. Et pourtant, cette science très particulière, qui n'a rien à voir avec une science aristotélicienne, argumente, dit-il, à l'article 8 de la question 1. Et on se dit, ah bah tiens, alors c'était pas la peine d'avoir tout planté dans la révélation pour finir dans l'argument. On sent que là, tout d'un coup, il y a une chute. Oui, mais il dit, argumenter, ça veut dire recueillir les arguments des philosophes lorsqu'ils sont vrais, quoi qu'il reste étranger à sa nature et n'ait de valeur que probable. Et recueillir aussi les témoignages des docteurs de la foi, donc des grandes autorités de la foi, saint Augustin, tout ça, qui, eux, ne sont pas étrangers à sa nature, sont propres, appropriés, mais restent probables aussi. Donc les arguments de toute nature, dès lors qu'ils sont bons, seront admis en doctrine sacrée, mais n'auront toujours qu'un rang subalterne. Un peu comme les domestiques ne s'assoient jamais devant leur maîtresse. Ils restent debout. Et je pense que de ce point de vue, Thomas dit que le travail de la raison, qui va pourtant parcourir son travail sur la foi, aura une valeur inférieure. Quand on en a fait le prince des rationalistes, on n'a rien compris et qu'on ne l'a pas lu. les responsabilités ecclésiales sont très lourdes en ces matières. Donc, mettons-nous d'abord au clair d'un mot sur la vérité de la foi concernant les fins dernières. Ensuite, on verra la théologie. Vous trouvez tout dans le catéchisme de l'Église catholique, bien sûr. Je rappelle qu'il est admirablement écrit, admirablement présenté. Il a été écrit en français, d'origine, par des théologiens français, et publié d'abord en français. Ensuite, a remis péniblement, ils ont fait une traduction latine, et qui a servi de matrice pour toutes les autres langues. Donc c'est un texte qui a été écrit primitivement en français, il en a le naturel, c'est absolument admirable. Évidemment, il est préalable à tout, après la Bible, bien sûr. Fin dernière est un terme pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, elles touchent toutes à la vie éternelle. Ça commence, d'ailleurs dit le catéchisme, par le jugement particulier. Il a lieu immédiatement après la mort, et non pas en attendant le jugement dernier, et cela, c'est deux fois. J'ajoute, c'est Jésus au bon larron sur la croix, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi en paradis. C'est pas au temps du jugement dernier, tu repasses, tu auras un bon d'avance. Non, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Ce jugement réfère la vie de chacun au Christ, ou bien à travers une purification, le purgatoire, ou bien pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, ou bien pour se damner immédiatement et pour toujours. Tout ça, c'est deux fois. Essayons d'en fixer quelques paramètres qu'on va trouver chez Thomas, mais aussi sur toute réflexion sur tous ces sujets. Ça, c'était la foi, c'était le bloc. Maintenant, il y a des paramètres qui ont du jeu, si vous voulez, qui vont nous obliger à réfléchir sur certaines choses. Si vous vous mêlez de débattre de toutes ces choses. Premier paramètre, il y a, pour la créature rationnelle, une seule destination possible, en l'occurrence pour l'homme, la vie éternelle, la béatitude, donc la vision de Dieu lui-même, la vision de l'essence divine, l'union amoureuse avec Dieu. C'est notre seule destination. Paramètre 2, c'est une pure grâce. Seule la grâce nous l'obtient. Obtenue par la passion du Christ, par sa passion et sa résurrection, une grâce à la fois personnelle et ecclésiale, bien sûr. Paramètre 3, toutefois, ou plutôt en cohérence avec le plan providentiel de Dieu, notre libre réponse est requise. Et là, ça devient intéressant. Il y a cette phrase magnifique, très connue de saint Augustin, « Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous ». Sermon 169, 11-13. Dieu qui nous a créés sans nous, là, Dieu seul agit, Dieu seul opère, mais il ne veut pas nous sauver sans nous, donc il veut nous sauver avec nous, avec notre coopération. Dieu opère, nous coopérons. Et on ne saurait mieux dire, cette phrase-là, elle traverse les siècles. Dieu a tout fait tout seul, mais il a voulu que nous agissions, hein, c'est ça qui est en train d'être dit. Mais comme dirait un philosophe chrétien pour qui j'ai quelque affection, Étienne Gilson dans son Saint-Augustin, ah non, c'est dans son thomisme. La théologie d'Augustin est parfaite, mais sa philosophie est en retard sur sa théologie. Il n'a avec lui que Platon et Plotin, donc une philosophie certes christianisée, mais un peu verticale, c'est-à-dire ça n'est plus de l'idée que tout dégringole, c'est de Dieu directement. Et nous sommes chrétiens, nous coopérons, mais il n'a pas tout à fait les instruments pour conférer aux créatures, vous voyez, la consistance qui leur permet d'agir de manière propre. De ce point de vue, et je dis de ce point de vue, et ça ne vaudrait pas pour d'autres points de vue, l'apport d'Aristote sera précieux pour Thomas. Aristote a le sens de la nature. La nature, chez Aristote, c'est ce qui désigne la capacité d'agir par soi-même. Ça, c'est génial. La physique d'Aristote, c'est quand même un pensum. Ça, c'est génial. La capacité d'agir par soi-même. Les cailloux n'ont pas la capacité d'agir par eux-mêmes. Ils ont une essence, ils n'ont pas de nature. La nature, c'est la capacité d'agir par soi-même. Et donc ça va être intégré, si vous voulez, dans Dieu veut que nous coopérions. Eh bien, voilà, il nous a donné la capacité d'agir par nous-mêmes. Donc, tout ça pour dire, notre libre réponse est requise. Donc, notre possible refus. Le paramètre par rapport à la vie éternelle, et celui de notre volonté. Et sachez que désormais, c'est vraiment un des paramètres tout à fait capitaux pour juger un peu de tout, du statut des péchés, du péché originel, des différentes strates, des fins dernières, tout. Notre volonté, où se place-t-elle? Comment se place-t-elle? La volonté intervient consécutivement à notre vocation par Dieu. Elle ne précède jamais la grâce, bien sûr, mais elle est requise, la volonté. De sa décision dépend l'unique alternative des fins dernières, oui ou non, donc le ciel ou l'enfer. Le purgatoire, c'est en fait un oui déjà prononcé, mais dont l'effectuation suppose une purification de l'âme, donc il y a un acte différé, mais c'est déjà oui, c'est pas une antichambre. Hein. Un peu, si vous voulez, comme... Je me prends à comparer le purgatoire un peu comme si vous avez fait vraiment quelque chose d'un peu lourd vis-à-vis de quelqu'un et qui vous pardonne, et en disant « c'est fini, on n'en parle plus ». Et donc c'est fait, vous êtes réconcilié. Il y a quand même un petit temps de gêne. Vous voyez, on se sent piteux, quoi. Le côté honteux. Alors on renchérit, on essaie d'être gentil plus qu'il ne faut. Vous voyez, c'est un peu ridicule. Bon. Le temps que ça se tasse, vous voyez. Enfin, bon. Ben, c'est un peu ça, le purgatoire. Paramètre 4. L'exercice de la volonté d'une créature est lié à la nature qui est la sienne. Pour nous, êtres humains, qui sommes dans un corps, qui sommes un corps... et qui sommes dans le temps, à cause de cela, nous posons des actes, nous progressons, la volonté est fluente sur terre, mais elle devient définitive en régime d'éternité. Pour les anges, ils sont concernés par les fins dernières aussi, qui, eux, sont des intelligences pures, un seul acte suffit, un seul acte de réponse. Il y a l'acte de leur création, puis il y a l'acte de leur réponse. Car ils sont en possession immédiate de tout ce qu'ils ont à savoir et à aimer. Leur décision est instantanée, d'un instant d'éternité, comme dit Thomas, qui reprend plus ou moins ça à Boèce. C'est donc irréversible. L'enfer est donc définitif. Ça tient à leur nature. Ils ne sont pas dans un corps, ils ne sont pas dans le devenir, ils ne sont pas dans le progrès. Ils ont tout ce qu'il faut intellectuellement pour savoir de quoi il s'agit. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur volonté pour répondre. De certaines manières, hésiter, prendre du temps, passer par plusieurs actes, ce serait pour eux un inconvénient, une diminution. Nous, on a l'impression inverse, mais non. La vérité des choses, c'est plus c'est concentré en un acte, mieux ça vaut, plus c'est maîtrisé. Donc, pas de salut final de Satan et de ses anges, pas d'apocatastase. Les anges n'ont pas besoin d'une succession d'actes. Nous, oui, bien sûr, nous en avons besoin. Leur intelligence est en acte de ce qu'ils ont à savoir, et donc leur volonté est en acte de ce qu'ils ont aimé. Bon. Il va sans dire que le ciel autant que l'enfer, une fois obtenus, sont définitifs. Autant pour les êtres humains que pour les anges. On ne revient pas de la béatitude. La béatitude, donc Dieu face à face, connu et aimé. Hein. On ne revient pas de la béatitude. Ce pourquoi aussi, sur terre, aucune, voyez, vision mystique ne saurait se targuer d'une vision divine. Je vais le développer un tout petit peu parce qu'il y a un truc chez saint Thomas qui est amusant. Mais si, il y a une exception à ce que je viens de vous dire sur le fait qu'on puisse revenir de la béatitude, il y a un cas. C'est dans l'âge de glace 3. À la fin, vous savez, l'écureuil qui est mort, il s'est noyé, se retrouve au paradis des écureuils. Il y a des nuages, un ciel bleu et des glands énormes. Et au fond, il y a le gland, si vous voulez, dont il se rapproche. Enfin, il l'a. Et hop, il est tiré en arrière. En fait, il n'était pas tout à fait mort. Et il y a, un autre animal qui est en train de le ranimer sur Terre. Quoi. Il a loupé sa béatitude. Bon. C'est le seul cas recensé. Quand on voit Dieu, on n'en voit plus d'autres. Peut-on se targuer sur terre d'une vision divine? Thomas se pose la question à propos des visions mystiques. Au Moyen-Âge, la vision mystique maximum, bon, il y a le cas de Moïse, mais le cas qui, pour eux, est le cas d'école, c'est la vision de saint Paul. C'est le ravissement de saint Paul. Et donc, est-ce que saint Paul, emporté au troisième ciel, j'allais dire le septième, non, ça c'est autre chose, emporté au troisième ciel, est-ce que saint Paul a vu Dieu? Et c'est assez amusant parce que Thomas, enfin, écoutez, je ne sais pas, je me trompe peut-être dans ma lecture, mais il change d'avis dans la somme de théologie. Je vous donne d'abord ce qu'il dit à la fin, vers la fin du traité de la vie contemplative. D'où il suit le degré suprême de la contemplation dans la vie présente est celui de saint Paul lors de son ravissement. Il, saint Paul, s'y trouvait dans un état intermédiaire entre l'état de la vie présente et celui de la vie future. Donc ni l'un ni l'autre, état intermédiaire. Et là-dessus, il s'appuie sur saint Grégoire et saint Augustin pour dire, donc c'est pas la béatitude, c'est plus qu'une vie mystique de haut niveau, il est dans un état intermédiaire. Avec ça, on est bien avancé. Enfin, c'était pour dire qu'il y avait quelque chose de plus sans avoir franchi le seuil de la béatitude. Mais, et là, on est dans la secunda secundae, question 180, article 5. À la question 175, donc 5 questions avant, quoi, ça fait 20 pages avant, il avait dit, sur le ravissement de saint Paul toujours, que saint Paul raconte qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de rapporter, et donc qu'il s'agisse, il semble bien qu'il s'agisse de la vision béatifique. Fin du corpus où il a discuté la chose, par conséquent, il est préférable de dire que saint Paul a vu Dieu dans son essence. C'est ce qu'il avait dit, donc, quelques pages auparavant. Pourtant, donc vous voyez, il est embêté, en fait, il ne tranche pas. Dès les réponses aux objections de ce même article, il tempère. Alors oui, c'est par mode de passion transitoire, pas bien heureux au sens plénier du mot, mais bien heureux sous un certain rapport. Bon. Ou bien, pas de manière habituelle, mais, vous voyez, pas sous manière d'habitus, mais seulement un acte ponctuel. Donc il en est revenu. Et je pense que l'article final donc dit tranche non. Tranche en disant non. Non, non. Même si c'était très élevé et selon un mode qui nous échappe, ça ne pouvait pas être la vision de l'essence divine. On n'en revient pas au sens strict. Mais il a essayé de pousser au maximum, si vous voulez, ce qu'il semblait y avoir de plus que les autres, dans le cas du ravissement de saint Paul. On n'en revient jamais. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où voir Dieu, ben on ne s'en détache pas. On dit, je reviens dans 5 minutes. Non, mais non, quand on voit Dieu, c'est la béatitude, on ne s'en détache pas. Et la volonté est fixée dans son amour. L'éternité est définitive. Donc si on est revenu, c'est que ça n'était pas la béatitude. Bon, on peut se déterminer négativement. Si on est revenu, c'est que ça n'était pas la béatitude. Un peu comme les fameuses expériences de mort imminente. Si on est revenu, c'est qu'on n'était pas mort. Paramètre 5, ah, là les paramètres s'accumulent. Le baptême est nécessaire au salut, c'est deux fois, puisque c'est le baptême qui nous configure au Christ en sa passion et en sa résurrection. Il applique au baptisé, enfin à celui qui reçoit le baptême, les effets du salut obtenus par l'unique sauveur et il le délivre de la peine du péché originel. Alors, il y a le baptême d'eau, qui est évidemment le plus courant, il y a le baptême de sang, comme vous le savez, le martyr, ou le baptême de désir, on l'aurait voulu, on a été empêché. Mais vous devinez qu'il y a d'autres cas qui vont être problématiques. En outre, cela oblige à penser de quelle façon le Christ est l'unique sauveur de tout homme, y compris des non-chrétiens. Et c'est notre foi de dire qu'il est l'unique sauveur de tous ceux qui croient et de tous ceux qui ne croient pas, même s'ils l'ignorent. Bon. Muni de ces instruments, venons-en à saint Thomas. Retenons-en trois points. Le premier est particulier, mais il montre Thomas aux prises avec son héritage, autant qu'avec ses propres principes, le cas des enfants morts sans baptême. J'aurais pas voulu passer la soirée sur ce sujet-là, mais c'est justement un sujet où son époque et sa position sont aujourd'hui justement reconnues problématiques. Mais ce qui est intéressant alors, c'est pas tant la position que les motifs pour lesquels il la pose telle. Ensuite, deuxièmement, je prendrai un peu de recul en insérant la béatitude dans l'ensemble de l'organigramme de la somme de théologie, comment il la place, si vous voulez, avec, ce sera plus ou moins intégré, la question de l'articulation entre nature et grâce. Donc voyons d'abord le cas des enfants morts sans baptême. Théorie des limbes, si vous voulez, plus ou moins issue de saint Augustin, si vous voulez. Par hypothèse, si le baptême est nécessaire au salut, ceux qui ne l'ont pas reçu ne sont pas sauvés et donc n'accèdent pas à la béatitude finale. Bon. Puisqu'ils sont marqués par le péché originel et n'ont pas été configurés au Christ. C'est ça l'argument qui joue, vous voyez, ce qui compte, c'est le pivot. Bon, maintenant, ils n'ont commis, évidemment, les pauvres, aucun péché personnel, puisqu'ils n'ont pas bénéficié ni de la liberté, ni de la conscience. Donc, ils n'ont aucune raison d'être punis et de subir la peine du dâme. La damnation. Maintenant, à l'époque de Thomas, c'est quand même en ces termes qu'on le dit. Donc, dans la mesure où ils ne sont pas sauvés, ben, ils sont damnés. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, une solution plus ou moins issue de Saint-Augustin, plus ou moins, consiste à dire qu'ils n'accèdent pas au bonheur surnaturel, c'est-à-dire la grâce, mais ont une sorte de bonheur ouaté, simplement humain, simplement naturel, qui fait qu'ils n'accèdent pas à la vision divine, mais qu'ils ne sont pas malheureux, en gros. Alors, Thomas affinerait cette position et la récuserait sur un autre plan. Il l'affine au sens où, certes, les enfants, et c'est là le conditionnement de son époque, sont privés de la vision divine, bien sûr, puisque pour toutes les raisons que je vous ai dites, mais sans en souffrir. Sans en souffrir. Donc Thomas privilégie, par rapport à son époque, l'ignorance dans laquelle ils sont de ce qui leur manque. Et donc, on ne souffre pas de ce qu'on ignore. Vous voyez, enfin, ils ne savent pas qu'il manque quelque chose d'important. Ou alors, ils savent qu'il manque la vision de Dieu, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils ne l'imaginent même pas. Donc, ils n'en souffrent pas. Thomas essaie de minimiser au maximum l'aspect punitif et de déréliction de la situation. Ils ne savent pas de quoi cette privation est faite. Alors le problème, c'est que Saint-Augustin ne lui rend pas la tâche facile. Là, pour le coup, plusieurs l'ont signalé, et je ne suis pas loin de penser avec eux. D'habitude, Thomas, il lit ses sources, et puis il s'en détache, alors avec sa manière inimitable de les intégrer, de dire que les auteurs ont raison, tout en leur faisant dire tout autre chose que ce qu'ils ont dit. En général, dans ce cas-là, il invente une distinction, c'est-à-dire Denis a parfaitement dit ceci, moi je vais choisir la solution B, et hop, il glisse, et Denis avait raison, mais en fait il est dans une impasse, si vous voulez, et hop, il glisse comme ça. Pour Saint-Augustin, c'est embêtant, c'est que là, il lui accorde de plus en plus de crédit. Or, Saint-Augustin est très restrictif quand même sur l'entrée au paradis, pas seulement pour les enfants morts sans baptême, hein. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit Saint-Paul, oui, dit Saint-Augustin. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il veut le salut de tous, mais seulement de ceux dont il veut le salut. C'est-à-dire, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y ait des sauvés dans toutes les catégories d'hommes. Mais pas tous. Des échantillons, si vous voulez. Donc, c'est Saint-Augustin quand même. On n'a pas mieux depuis quand on est Thomas, et malheureusement... La pensée d'Augustin pèse sur ce point, c'est très segmenté, mais là, sur ce point, elle pèse sur lui, il n'a pas osé la remettre en cause, alors qu'il avait tous les moyens de le faire. Les principes de Thomas ont bougé et lui auraient permis de dire les choses autrement, il n'a pas osé toucher à la statue. Vous verrez quand vous y serez. Hein. Allez dire devant surtout que Saint-Augustin est à la mode depuis 25 ans maintenant, il n'était pas avant. Allez faire des déclarations contre Saint-Augustin, Saint-Thomas. Saint-Thomas, tout le monde peut lui pisser dessus. Mais et dans l'Église, autant que dehors, on ne s'en prive pas. Les prostates théologiques se règlent comme ça. Mais Saint-Augustin, on ne touche pas, alors qu'il est quand même infiniment plus sévère du point de vue de la question du salut. C'est comme ça, c'est assez drôle. Donc, le problème, on retrouve la question du volontaire. La punition doit relever du volontaire. Vous voyez, elle doit sanctionner un acte volontaire. Comment rattacher à un péché volontaire l'âme des enfants? Et c'est là le problème. Alors, on va dire, comme pour le péché originel, que en nous, le péché originel affecte le volontaire, bien sûr, puisqu'il fait de nous des pécheurs. Sinon, il n'y a pas de péché du tout. Mais il n'a pas statut de péché commis, mais de péché contracté. Passivement, pourrait-on dire. Comme on contracte une maladie. Ce n'est pas d'ordre maladif, mais c'est pour vous faire comprendre le sens du verbe. Donc ce n'est pas un péché volontairement, activement, personnellement commis, mais c'est un péché contracté. Et c'est pour ça qu'on participe à quelque chose d'une situation qui nous plombe. C'est la raison pour laquelle le baptême est nécessaire, et donc qu'il constitue une frontière entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, au nom de ce que saint Thomas a dit par ailleurs, je vous passe plein d'intermédiaires, mais à savoir, chez lui pèse de plus en plus fort le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et voyez qu'à mettre toutes ces choses ensemble, ça ne marche pas très bien. Enfin, vous voyez, les galets ne sont pas encore assez polis. Aujourd'hui, on pourrait peut-être, au nom des principes de Thomas, donc outrepassant sa doctrine, là, j'ai horreur de ce genre de situation, mais là, justement, je le fais, parce que c'est une situation limite. Là, il faudrait outrepasser sa doctrine, donc ça n'est plus Thomas qui l'a dit, hein, je distingue bien, et je ne crois pas du tout au prolongement de saint Thomas, enfin, on ne prolonge pas un auteur, enfin, c'est... Les thomistes, de ce point de vue, sont d'une lourdeur et d'une maladresse infinie. Bon, je vais vous lire un poème de Baudelaire. J'ai refait les dernières strophes parce que j'ai trouvé que quand même c'était... Il est fou, ce type. Bon, enfin bon. Donc, c'est le Christ qui... Pardon. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est le mérite du Christ qui suffit à sauver tout le monde. Avant toute participation humaine. C'est la grâce qui précède toujours, hein. Et donc, sa passion doit avoir une valeur infinie de satisfaction pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc, affirmer que certains d'entre eux, sans faute de leur part, n'ont finalement aucun moyen d'être sauvés, d'être rejoints par la passion du Christ, de sorte qu'elle devienne efficace pour eux, c'est nier la portée de la rédemption. Vous voyez, c'est qu'on sait qu'il y aura des blocs d'êtres qui ne seront jamais sauvés. Donc, la passion, finalement, n'était pas pour tout le monde. Puisqu'il y a des gens qui ne seront jamais atteints par elle. Et il y a un truc qui n'est pas complètement au point. Après tout, les saints innocents nous rappellent que la grâce précède l'action humaine, qui n'ont participé en rien à une action, et pourtant ils ont été configurés à la passion du Christ. C'est ce que dit la liturgie, enfin, autant que les textes de Noël, bien sûr. Donc, là, de ce point de vue, nous serions conduits, c'est d'ailleurs ce que l'Église a fait, pour le coup, en renonçant à juste titre à la doctrine des limbes, c'est qu'il n'y avait aucune raison d'exclure ces enfants-là de la passion du Christ. Ben, ça veut dire que si c'est le Christ qui est le canal, la cause instrumentale, comme dirait Thomas, qui permet aux êtres d'être sauvés, nous, ça passe par les sacrements, parce que c'est ce qu'il a voulu pour nous, mais à défaut de sacrements, il peut s'en occuper tout seul. Lorsqu'il n'y a eu rien d'autre. Et donc, il se fait la cause instrumentale première, puisque c'est lui, et donc ça passe par lui directement. Puisqu'il n'y a pas eu d'intermédiaire, ça passe donc par lui directement. Et donc, les enfants, aujourd'hui, dirait-on, et ça je crois que c'est très juste, sont configurés à la mort du Christ, il a mérité pour eux la vie éternelle. Et accidentellement, ça n'a pas pu passer par des sacrements, parce qu'il n'y en a pas eu, parce qu'ils sont morts avant, parce qu'ils ont été massacrés, parce que... et c'est pas de leur faute. Donc, vous voyez, il ne faut pas confondre la cause et l'effet. C'est le Christ, la véritable cause salvatrice, qu'il a distribué en des sacrements. Le sacrement manque, mais lui, il est toujours actif, plus haut, plus puissant, à titre premier. Donc, ça peut marcher quand même. Et ça nous rappelle que le salut vient de Dieu, est absolument gratuit. On est loin du pélagianisme, où il faudrait faire des choses... avoir fait des choses pour mériter le salut. Le salut nous précède toujours. Notre mérite s'y inclut. Il ne précède jamais. Il n'y a pas à se rendre digne du salut. Le salut nous précède toujours. Donc, je ne vais pas plus loin. Pardon. Si, il y avait l'autre partie de la chose, c'est que l'idée d'un bonheur simplement naturel est une construction de théologien qui n'existe pas. Il n'y a pas de bonheur simplement naturel. La seule fin dernière qui soit la nôtre, pour ça que j'ai commencé par ça, c'est de voir Dieu face à face, ou non. Donc on le voit ou on ne le voit pas, mais il n'y a pas de l'autre consolation, vous voyez, de bonheur au fond humain, philosophique pourrait-on dire, au ciel. Donc il n'y a pas de bonheur naturel, et au fond, en creusant un peu, parce que ça s'est accentué à travers les époques, ça a pris plusieurs couleurs, qu'est-ce donc que cette nature qui est aussi artificiellement détachée de la grâce ? C'est une abstraction de théologien. Il n'y a pas de... notre seule nature. Et là, Thomas joue sur les deux sens du mot nature, le mot simplement humain, philosophique, aristotélicien, enfin, le composé humain, si vous voulez, la structuration humaine, et le sens de saint Augustin qu'il conserve. La nature chez saint Augustin, c'est notre état théologique sous la grâce. Adam, la nature est intacte, après, elle est corrompue, c'est nous, tous. Mais il appelle ça nature. La nature chez saint Augustin, c'est un certain état de la grâce. Ça n'a pas le sens philosophique ordinaire. Et ça, c'est très libérant. C'est un sens théologique qui... La nature englobe la grâce, qui englobe la nature au sens philosophique. Il y a deux sens au mot nature. Et ça change tout. Et ça résout par avance toutes les questions sur nature et grâce qui auront lieu dans les années 1950. Et oui. Bon, c'est pas notre sujet. Alors, on en... Deuxième point... les fins dernières dans l'organigramme de la somme de théologie. Où saint Thomas place-t-il les fins dernières? Voyez, s'il s'agit de disposer l'ensemble de la doctrine sacrée. Alors, du point de vue de la scène de théologie, ben, les fins dernières n'y sont justement pas, parce que les fins dernières étaient censées être placées, c'est un peu comme le nom l'indique, à la fin. Or, il est mort avant d'avoir fini. Il a, en 1273, il a 48 ans, il arrête tout du jour au lendemain, je peux plus, je peux plus. Et le secrétaire s'en affole et il dit, après ce que j'ai vu, le reste me semble de la paille. Alors on dit, la paille, c'est du n'importe quoi. Non, non, c'est plus fin que ça, le coup de la paille. Ce que j'ai fait me semble de la paille. Pourquoi on dit la paille, c'est nul comme métaphore? Il a toujours été nul en métaphore, saint Thomas. Mais, et à force de vouloir un discours propre en théologie, un discours rationnel, métaphorique, pour dégager le XIIe siècle qui le fatiguait, ben, il a, c'est vrai, une manière métaphorique de s'exprimer extrêmement appauvrie. Mais là, la métaphore est plus riche qu'il n'y paraît. Je crois que c'est le Père Thorel, j'en suis pas sûr, qui disait que, la paille, on traduit paille parce que c'est plus simple, mais c'est la balle du blé. La balle, c'est cette petite peau sèche qui enrobe la farine dans un épi de blé. Vous voyez, et c'est ce que les paysans, lorsqu'ils ramassent le blé, c'est ce qui batte la balle et ça fait une sorte de nuage jaune. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, au moins dans des films. Bon, donc c'est une poussière jaune de cette petite peau très sèche, vous voyez, qui dégage la farine. Enfin, bon. Et donc, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est cette petite peau qui enrobait la farine. Donc ça n'était qu'une peau, mais la farine, c'est le pain du ciel, c'est l'Eucharistie, c'est le Christ. Donc mon travail enrobait la farine du Christ. Vous voyez, c'est beaucoup plus biblique, psalmique, et plus riche finalement. Ça n'était qu'un revêtement. Oui, n'empêche que c'était quand même l'Eucharistie, excusez-moi. Enfin, vous voyez, c'est bon. Donc c'est à double tranchant. Donc, et il meurt quelques mois plus tard, vous le savez peut-être, en 1274, épuisé. Et puis parce qu'en plus, il se prend une branche dans la tête. Mais c'est vrai, il se rendait au concile de Lyon, il était peut-être somnolent ou sur son âne ou dans une charrette, il s'est pris une branche, il ne l'a pas vu. Commotion cérébrale, il en est mort quelques temps après. Donc, la doctrine... Et il était en train d'écrire une douzaine de livres, dont des commentaires d'Aristote, certains sont finis, certains ne sont pas finis. On a calculé que les 10 dernières années de sa vie, en moyenne, il écrit de pages créatrices l'équivalent de 12 pages à 4 par jour. En moyenne, sur 10 ans, en comptant les maladies, les voyages, les dimanches, etc. 12 pages par jour de thèse, si vous voulez, pendant 10 ans. Si vous le faites pendant 2 mois, 12 pages par jour, vous le ferez. Il y aura un mois d'hôpital psychiatrique et puis ça repartira très bien. Lui, c'est pendant 10 ans. Vous voyez le rythme. Il n'est pas le seul à ce rythme-là, mais enfin, c'est pour dire quand même. Or, dans ce qui importe dans son plan de la somme théologique qui a été très étudié depuis presque un siècle, c'est que, comme je vous le signalais tout à l'heure, attention, c'est une forme de théologie appuyée sur la révélation, qui n'est justement pas une science de type aristotélicien. Elle ne fonctionne pas à coup de déduction rationnelle. C'est pas elle qui fait ça. Celle qui le fait, c'est à la limite, enfin, les sciences philosophiques en général, les disciplines philosophiques, comme il dit, et la théologie, qui est une partie parse de la métaphysique, qui peut fonctionner un peu comme ça, qui, elle, fonctionne comme une science aristotélicienne ordinaire. On n'est pas dans le même genre, comme disent les tontons flingueurs, mais comme dit Thomas lui-même, elle diffère selon le genre. Elle diffère selon le genre. Si vous êtes bon logicien, deux choses qui diffèrent selon le genre, ça signifie qu'elles n'ont aucune essence commune. Ce ne sont pas deux espèces d'un même genre. Elles différaient selon le genre, ça veut dire n'avoir aucune nature commune. Je ne sais pas, un pneu et une chaise, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune nature commune. On se dit, mais enfin, ce sont deux théologies. Alors, une sur la raison, l'autre sur la révélation. D'accord, enfin, elles parlent de Dieu, il y a quand même du domaine croisé. Enfin, on se dit, pourquoi c'est si différent? Nombre de thomistes ont cherché à atténuer, en disant, ouais, mais non, il a dit ça, mais c'est un quasi-genre. Non, rien. Parce que ce ne sont pas les théologies qui diffèrent selon le genre, c'est le type de science. Type aristotélicien de science humaine appuyé sur l'expérience et la raison, ou bien l'autre appuyé sur la certitude qu'est Dieu lui-même en tant que révélant. Et ça ne fonctionne pas de la même façon. Bon, une fois qu'on a dit ça, il semble-t-il, Thomas dessine le plan de la somme de théologie selon le plan de sortie et de retour qu'il doit, alors c'est ce qu'on essaie de deviner, à la tradition néoplatonicienne, donc à Plotin, à Proclus, à Denis, qui en est la version christianisée, toutes choses viennent... Alors cette fois-ci, on met un vrai Dieu créateur, donc ça marche. Toutes choses sortent de Dieu et reviennent à Dieu. Dans son commentaire des Sentences, c'est très présent. sortie retour, le binôme, est cité trois fois au début, donc il le revendique. Il le revendique d'autant plus que ça n'est pas dans les sentences qu'il commente. Et ça veut dire qu'en fait, le plan des sentences de Pierre Lombard qu'il est censé commenter, c'est un manuel de théologie que chaque thésard doit commenter ligne à ligne. Au fond, le plan du Lombard qui est distribué autrement l'agace. C'est pas clair, c'est cafouilleux. Donc il lui plaque un plan de sortie et de retour en disant « Tu veux de la clarté, moi je vais t'en donner. » Et c'est ça qu'il donne. Dans la Somme contre les gentils, ça s'estompe déjà un peu, et dans la Somme de théologie, le binôme sortie-retour a disparu. Pourtant, on devine que le plan sort de Dieu et remonte vers Dieu. Et pourtant, la mention a disparu. Oui, alors, toutes les interprétations sont... Oui, mais il l'a déjà tellement dit, il n'a pas besoin de le répéter. Oui, enfin, quand on fait 3000 pages, on peut se donner la peine de le dire en une phrase. Ça ne l'aurait pas tué, quand même. Pour ma part, je pense que s'il ne l'a pas fait, c'est tout à fait délibéré. Il faut faire attention au silence de saint Thomas. Il ne faut pas lui boucher les trous. Il n'y a pas de trou. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne voulait pas le faire. Pourquoi ? Peut-être parce que ce plan qu'il peut rapporter, ce qu'il a fait dans les sentences, à l'Écriture, à l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga », par exemple. Hein, c'est Dieu qui parle, le commencement et la fin. Lorsque ça vient du néoplatonisme, de la philosophie platonicienne, c'est un plan un peu trop nécessitant. C'est la nécessité des essences qui émanent, qui dégringolent les unes des autres. On est dans un monde de nécessité, où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de nature responsable de ses actes. Et même la remontée supposée vers Dieu est nécessitante aussi. Or, Thomas, à mesure que les années passent, donne de plus en plus de place à l'action libre et coopérante de l'homme, mettons, à son salut. Donc ce plan, par son intitulé au moins, risquait d'être un peu étroit. Vous voyez, enfin, d'être un peu... Or, avec la Somme contre les gentils, tome 3, il vient de faire des orgues de Staline pendant tout un livre... contre la théologie musulmane qui est très marquée par la nécessité à la fois néo-platonicienne et coranique. C'est-à-dire Dieu est un Dieu nécessaire et tout ce qui se passe sous lui est passif, mu par la nécessité divine. Et ça, ça ne lui plaît pas du tout. Et donc il utilise même Moïse Maïmonide, le juif, à son secours, parce qu'il est biblique, donc il a le sens de la liberté humaine, Maïmonide. Donc il dit « Maïmonide, venez m'aider ». Contre les Moutakalemim, donc contre les musulmans. Et je pense que, comme disait Gilson, quand on lit le tome 3 de la Somme contre les gentils, on prend un coup de poing dans l'estomac. Je ne le savais pas, je n'avais pas lu cette phrase-là, je ne l'avais pas remarqué. Quand j'ai lu le bouquin, quand j'ai fini de le lire, je me souviens, ouf, j'étais assommé. On sent que là, il y tient. Ce qu'il veut marquer, c'est la participation libre des créatures à tout ce qui va leur arriver, et donc à leur salut. Ce que certains systèmes philosophiques et peut-être religieux ne permettent pas. Donc dans la Somme, quand il en arrive là, le plan un peu contraint, un peu nécessitant néoplatonicien risque de porter en lui une certaine part de nécessité, même s'il est christianisé par la Bible, tout ça. Donc Thomas va planter des clous et marquer au maximum possible l'autonomie des opérations humaines. C'est librement que... l'homme coopère. Par exemple, dans le traité de la prédestination de la Somme, il va dire très intéressant la prédestination. La prédestination n'introduit rien dans ceux qui sont prédestinés, donc dans vous et moi, elle est entièrement dans celui qui prédestine, c'est-à-dire en Dieu. J'aime beaucoup cette phrase. Tout est dans la tête de Dieu, tout est dans son plan qui, en rien, n'introduit une nécessité dans vos décisions. Vos décisions, il les veut libres. Il les veut comme libres. Et ça, ce sont des choses comme ça qu'il va approfondir énormément dans la Somme. Prologue de la deuxième partie de la Somme, prima secundae, puisque, c'est saint Thomas qui parle, selon saint Jean Damascène, l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il est doué d'intelligence, de libre arbitre et d'un pouvoir autonome. Après avoir traité de l'exemplaire qui est Dieu et des êtres qui ont procédé de sa puissance conformément à sa volonté, il faut maintenant considérer son image, c'est-à-dire l'homme, car lui aussi, comme Dieu, est principe de ses propres actes, en tant qu'il possède le libre arbitre et le pouvoir de ses actes. Et il y a la même potestas en Dieu et la potestas en l'homme, à l'image de Dieu. L'homme a pouvoir sur ses actes. Vous voyez l'insistance sur la participation libre de l'homme, ça c'est très important. Reprise du prologue, ce que nous avons d'abord à considérer, c'est la fin ultime de la vie humaine. On devra se demander ensuite par quels moyens l'homme parvient à cette fin ou s'en détourne, car c'est d'après la fin qu'on doit se faire une idée des moyens qui y conduisent. Et puisqu'on admet que la fin ultime de la vie humaine est la béatitude, nous avons étudié d'abord la fin ultime en général, puis la béatitude. Alors, je vous passe la question de savoir si dans la béatitude, le plus important, c'est la connaissance ou l'amour. Vous devinez que c'est la connaissance, tout simplement parce qu'elle est première. C'est-à-dire, seule la connaissance de quelque chose rend la chose désirable. Seule, elle la fait connaître comme un bien. Et là, Thomas s'appuie à fond sur saint Augustin et sur le traité de la Trinité d'Augustin, avec cette phrase qui revient plusieurs fois dans la De Trinitate d'Augustin au livre 10, sous plusieurs graphies. On n'aime que ce qu'on connaît. On n'aime que ce qu'on connaît. On n'aime que ce qui est déjà connu. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Vous voyez, c'est tourné dans tous les sens. Mais l'idée d'Augustin, c'est celle-là. Et Thomas est parfaitement de cet avis. Il y a des moments où il est vraiment augustinien. Donc forcément, c'est un acte intellectuel, puisque c'est lui qui présente à la volonté Dieu comme aimable. Sinon, on ne présente rien. Comment voulez-vous aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Il ne se passe rien, tout simplement. Alors, il est tard déjà, je crois. On a commencé à 9h. Je voulais qu'on étudie ensemble un article de Thomas, mais tant pis, j'en ai fait des photocopies, je vous les donnerai. Je vais finir simplement, alors, attends, je préfère couper pour ne pas vous embêter, par une citation. C'est à propos des anges. Créés en grâce, pour le coup, c'est dans la Somme, à propos de nature et grâce, justement. Bien que, selon l'ordre naturel, la grâce soit intermédiaire entre la nature et la gloire, cependant, dans l'ordre du temps, la gloire ne devait pas être donnée à la créature en même temps que la nature, car elle est la fin, la grâce, la gloire est la fin, que par son opération, la nature poursuit avec l'aide de la grâce. La grâce, elle, n'est pas fin à l'égard de l'opération, elle est principe. La grâce est toujours au début, la grâce n'est pas atteinte à la fin. La grâce est toujours au début, la gloire est à la fin. La grâce est toujours au début, et notre opération est dans l'entre-deux. La grâce, elle, n'est pas fin à l'égard de l'opération, mais principe, car elle ne provient pas des œuvres. La grâce n'est pas le résultat de nos œuvres, elle en est au contraire au principe. Il convenait donc que pour les anges, elle fût donnée en même temps que leur nature. Il faut mettre les choses à leur place, si vous voulez. La grâce est toujours première. Bon, je préfère arrêter parce que j'y suis tenu. Ça laisse peut-être un peu de temps pour les questions, j'espère. Hein ? On m'avait dit 40 minutes. Que j'avais fait 30 photocopies. Oui, je vous en prie.
J'ai une petite question.
Oui.
concerne cette remarque que notre ancien aumônier nous avait fait sur la spécificité de la manière dont saint Thomas décrit la béatitude, notamment en fait sur puisque si on peut parler de la vie de temps, c'est un peu étonnant, mais qui sépare le mouvement particulier de la résurrection des corps.
Oui.
Et alors, il nous disait que c'était difficile de trouver chez saint Thomas l'idée que la restitution du corps, en tout cas sa résurrection, ses qualifications, changeait vraiment quoi que ce soit la qualité de la béatitude qui était éprouvée par l'âme. Et que pourtant, on trouvait quand même l'idée que même toute seule n'était pas vraiment une personne. Et en fait, j'aimerais bien vous demander ce que vous en pensez.
Si j'ai compris votre question, oui, il a raison. C'est-à-dire, si la béatitude consiste pour l'intellect, par grâce, à voir Dieu dans son essence, tout est lié à ce titre-là. Le corps participe. Alors, comme nous sommes des personnes humaines, l'intégrité de notre nature exige, si on veut, que le corps participe et que l'âme rayonne sur le corps, mais le corps en tant que tel n'ajoute pas un élément de vision. Il fait mieux participer la personne qui est reconstituée, qui est entière, qui est intègre, qui est glorieuse, si vous voulez, parce que le corps est dans un état glorieux. Je vous ai passé les étapes du corps glorieux. Bon, j'ai un peu regardé ça, mais si ça arrive, on me tombe dessus, absolument. Mais simplement parce que c'est un acte de l'esprit, puisque c'est un acte de vision de Dieu qui n'est pas dans la matière. Donc, le corps n'ajoute rien. Il participe.
Mais comment est-ce qu'on pense quand même la nécessité de la résurrection des corps?
C'est pas une nécessité, c'est un article de foi. C'est-à-dire, nous savons qu'il y aura un jugement dernier avec une résurrection des corps. Voilà, ça c'est le stock, la foi. Débrouillez-vous avec ça, si vous voulez. Mais oui, on est dans l'attestatif. Hein. La théologie, elle ne fait rien de plus que de dire, ben voilà, c'est de foi, on essaie de comprendre, de faire des ligaments entre les choses pour les ordonner, si vous voulez, pour les rendre intelligibles, mais on n'ajoute rien. Donc, simplement, en revanche, ça nous dit que pour des êtres humains entrés dans l'éternité, il y a une relative succession qui n'est pas un devenir corporel ni temporel, il y a une succession d'actes quand même. Parce que les saints actuellement au ciel sont sans leur corps. Donc ils le récupéreront un jour, donc il y aura un avant et un après. Si vous... Donc il y a une succession d'actes. Voilà, qui a des caractéristiques. Et là, Thomas, pour les décrire, ces caractéristiques, ça vaut justement pour le rayonnement de l'âme sur le corps, tout ça, procède, comme il le fait d'ailleurs en théologie en général, en plein et en creux. Ce qui est en plein, c'est la chose à dire, et en creux, les choses à éliminer, si vous voulez, la partie voie négative de la théologie. C'est-à-dire, il y a des situations qui ne pourront plus se présenter comme ça. C'est-à-dire, le corps va être réintégré à la personne, mais il ne vivra plus selon les conditionnements corporels qui sont les nôtres aujourd'hui, vous voyez. Donc il y a des choses qu'il faudra éliminer, tous les conditionnements hypermatériels du corps. Donc en fait, il va falloir les nommer, et donc... Là, on peut être au moins sûr, vous voyez, de, un peu comme quand on essaie de faire le portrait de Dieu dont nous ignorons l'essence, on élimine tout ce qui n'est pas lui. Dieu n'est pas dans la matière, Dieu n'est pas dans le temps. Dire que Dieu n'est pas dans le temps, c'est positivement exprimé en disant qu'il est éternel, mais ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans le devenir, il ne s'acquiert pas. N'empêche qu'on a dit quelque chose de très important à son sujet. On a éliminé des choses qui ne peuvent pas se dire. Et donc, pour d'autres choses de la théologie, c'est souvent ça. C'est-à-dire, on énonce la foi, on essaie de creuser ce que veut dire la proposition, et on élimine tout ce qu'elle ne veut pas dire, justement. Et je pense que, vous voyez, pour reprendre l'exemple du credo de la messe, qui, dans ses deux versions, est quand même un exposé d'abord charpenté par la Trinité, si vous voulez, pour exposer la situation mutuelle des personnes de la Trinité, chaque phrase est là pour dire le mystère et pour éliminer ce qui ne peut pas marcher. Il y a une dispersion des trois personnes en trois dieux, ou au contraire, une sorte de fusion des trois personnes en trois qualités divines qui font que ce ne sont pas des personnes. Ou le fait que le Fils et l'Esprit ne sont que des créatures, c'était ça le gros des hérésies, si vous voulez, seul le Père était Dieu. Donc on élimine ça. Donc c'est aussi un discours des lignes qui cherche à écarter tout ce qui ne peut pas convenir. Et ben ça quand même, ça renseigne.
Et ma deuxième question, c'est une remarque.
Donc c'est pas une seconde question, c'est une deuxième, il y en aura une troisième. Oui.
ça dépend si vous répondez.
Oui.
C'est sur la place du Père, parce que vous avez. Vous parliez de doctrine sacrée au tout début de votre conférence et vous avez dit à un moment que saint Thomas citait les pères en donnant l'impression qu'il utilisait les arguments et finalement disait tout autre chose. Quel est exactement le...
Je m'amuse, j'exagère un peu parfois. Mais, oui. mais quand même, s'il y a des endroits, c'est assez net.
Et quel est donc le statut des pères en fait dans l'organigramme de la doctrine sacrée?
C'est les autorités des docteurs de la foi. Ils sont intégrés comme des arguments propres.
Et donc c'est vraiment un intermédiaire entre ce qui relève vraiment de ce que les Écritures nous enseignent et des options théologiques qu'on peut
prendre. Oh ben non, ils appartiennent au fond à la théologie. Ils ne sont pas plus. D'accord. Ils ne sont pas plus. J'allais dire, ils sont entièrement du côté de la théologie, simplement ils sont revêtus d'une autorité reconnue, si vous voulez. Mais leur discours et leur statut n'est pas autre que celui d'un théologien du point de vue du genre. La révélation, elle a un statut tout à fait à part. Hein. Le reste est humain.
Mais il n'y a absolument aucune pensée des pères comme étant une sorte de genre entre ce que les théologiens post-patristiques peuvent raconter et les Écritures saintes.
Non. Non, ce sont les docteurs de la tradition. Ils sont reçus par l'Église comme des grandes autorités, et c'est pas rien, si vous voulez. Mais, et à ce titre, le moindre théologien d'aujourd'hui qui se prétend au-dessus d'un Saint-Augustin doit passer pour un comique, si vous voulez. Bon. Mais maintenant, du point de vue du type d'effort, c'est un effort humain sur la foi. C'est de même genre.
Simplement, c'est comme un grand professeur, un grand musicien, il y a des gens qui sont plus grands que d'autres, si vous voulez, à qui on reconnaît une autorité évidente, quoi. Maintenant, ça n'est pas une révélation continuée, c'est pas un intermédiaire entre la révélation et la théologie. Ça relève de l'effort humain. Mais reçu dans la tradition de l'Église, si vous voulez. Donc, il y a ce qu'ils ont dit, et de par ce qu'ils ont dit, leur statut d'autorité qui pèse quand même. Or, pour un homme du XIIIe siècle, lorsque des gens ont acquis un statut d'autorité, c'est pas rien. Hein. Alors, tous ne l'ont pas reçu, justement. Il y a des gens qui sont éliminés aux entournures. Bon, mais donc, les plus grands docteurs, c'est un peu difficile de les rabrouer, ça ne se fait pas. En plus, au XIIIe siècle, à l'inverse de nous qui sommes tous des post-foucauldiens, on ne cherche pas à marquer les hérissements de la discontinuité, comme dit Foucault. Au contraire, on est dans un flux. On doit pouvoir prouver que ce qu'ils ont dit est toujours valable pour nous, quitte à un peu, pardonnez-moi d'être jésuite, excusez-moi, ça craque, à sauver la proposition. À sauver leur proposition. Vous voyez, lorsque saint Augustin distribue les sept dons du Saint-Esprit pour souligner les sept grandes vertus, et que Thomas le répercute, il sent très bien que c'est un petit peu artificiel quand même de les attribuer terme à terme comme ça. Donc il fait un minimum, c'est-à-dire à la fois, quant au classement, il ne cherche pas à en faire plus, en revanche, il cherche à en tirer quelque chose, doctrinalement, vous voyez, une sorte de substance spirituelle. Mais il ne va pas s'échiner, vous voyez, à s'acharner sur des choses qui, peut-être déjà, de son point de vue, apparaissent comme des procédés ou des choses un peu anciennes. Mais on a un sens très fort de la tradition des anciens, donc on ne cherche pas, sauf s'ils ont commis des hérésies, auquel cas c'est plié, on ne cherche pas à s'en distancier comme ça, quand même. Hein. Et on ne cite pas les contemporains. C'est dommage. Pour nous, c'est dommage qu'ils ne citent pas leurs contemporains. Oui, je vous en prie.
Alors, c'était par rapport à la question de la grâce et de la nature dont vous avez parlé un peu maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi est-ce que saint Thomas comprend que la nature est... Enfin, je ne suis pas très bien compris le lien entre la grâce et la nature, mais du moins, il n'y a pas de scission, de ce que j'ai compris. Et sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Sur quelle source patristique ou biblique est-ce qu'il appuie justement cette conception-là, en fait?
Alors, globalement, je pense qu'à la fois, il est assez augustinien, avec quelques apports orientaux quand il en a. Et il les a pas tous, et il s'en plaint. Mais tout ça pour dire que, comment dire, je pense qu'il est encore récepteur, un peu dernier, enfin, il est encore dans le fil des pères de l'Église, au sens où ça va s'estomper très vite après lui, il est encore dans le fil des pères de l'Église pour lesquels, finalement, la nature désigne l'état natif d'Adam, finalement, de l'homme créé en grâce avec une nature intacte. Donc la nature augustinienne d'origine, c'est la grâce de Dieu, donc Adam en présence de Dieu, qui n'est pas de manière bienheureuse, mais dans une grâce de type supérieur, avec une nature humaine intacte. Et suite au péché originel, la grâce sera perdue et la nature sera blessée, un peu corrompue même chez saint Augustin. Bon, très bien. Mais je pense qu'il y a deux états, il y a non seulement deux états de la nature avant-après, mais il y a même deux étages de la nature. Il y a la nature au sens augustinien, le sens théologique, c'est une situation par rapport à la grâce, on l'a ou on l'a pas, et la nature au sens philosophique, disons aristotélicien si on veut, qui décrirait la structuration interne de l'homme, fait d'un corps, d'une âme, d'une intelligence, etc. Or, ça va se déséquilibrer après Thomas au profit, on va perdre un peu l'enracinement patristique, pour conserver plutôt le sens aristotélicien dur. C'est-à-dire la nature, ce sont, alors pour le coup, les capacités d'agir par soi-même, et de plus en plus abstraitement prises par rapport à la grâce. Va naître, le père de Lubac en avait décrit les évolutions historiques, ça a mis 2-3 siècles, 2 siècles après saint Thomas en gros, ça, voyez, et si on considérait ou bien l'ange, ou bien Adam par exemple, sans la grâce, qu'est-il capable de faire tous par lui-même, tout seul. Vous voyez, comme une sorte d'époque ou serlienne, enfin de mise entre parenthèses, mais oui, avant la lettre, c'est-à-dire on met entre parenthèses une chose dont on sait qu'elle existe. Mais on la met entre parenthèses, la grâce. On ne considère que la nature. Qu'est-ce que l'homme est capable de faire tout seul, comme s'il n'avait pas la grâce, alors qu'on est tous d'accord, on est tous étudiants en théologie, on sait qu'il l'a. Qu'est-il capable de faire par lui-même? Et comme dit le père de Lubac, après 2 siècles d'exercice scolaire comme ça, eh bien, on a fini par y croire. C'est-à-dire, ça s'est implanté comme la nature pure, c'est-à-dire qui non seulement est une hypothèse d'école, voyez, de la nature considérée sans la grâce, mais d'une nature, au fond, un peu vivante sans la grâce. C'est devenu, la nature est devenue un préalable à la grâce. Et ça s'est accentué, je simplifie à outrance, mais ça s'est accentué sur ces entrefaites de la crise protestante qui, elle, alors, minimisait complètement la nature au profit de la grâce seule. Et ça avait commencé, puisque le protestantisme, c'est une version, j'allais dire, réchauffée d'une philosophie franciscaine, nominaliste, et refusant Aristote. Ça a commencé avec Saint Bonaventure, c'est-à-dire, au fond, c'est pour ça que Saint Bonaventure est très contre Aristote, il le connaît sur le bout des doigts. Il l'a étudié dès l'âge de 15 ans, il le dit lui-même. Outre le fait que le monde éternel, ça lui reste là, c'est que, après à Bonaventure en tout cas, la nature aristotélicienne, vous savez, celle qui vous donne la capacité d'agir par vous-même, devient un obstacle par rapport à la providence divine. Au fond, vous faites tout seul, vous pouvez vous passer de Dieu, ça ne va pas. Vous mettez un écran par rapport à la toute-puissance divine. Pour sauver la toute-puissance divine et la liberté de Dieu de faire ce qu'il veut, il va falloir minimiser la nature. Donc en minimisant la nature, on minimise le critère de la raison, donc on profite de la volonté. Il y avait déjà des prédispositions, en quelque sorte, de ce côté-là, donc du côté de l'amour, si vous voulez. Mais donc on minimise la nature et la raison au profit de la volonté, d'où la montée, par exemple, des spiritualités qui vont être exclusivement volontaristes. Les théologies de l'obéissance dont on se plaint aujourd'hui des effets désastreux, où il s'agit d'obéir, moins vous comprenez, mieux vous obéissez, c'en est un peu la parodie finale, quoi. C'est-à-dire, vous obéissez. Il est bon d'obéir pour l'obéissance elle-même. Mais non, il faut obéir, comme dirait Thomas, parce que c'est vrai. Parce que c'est fondé en raison, et si ça ne l'est pas, il n'y a pas de raison d'obéir. Bon, vous voyez, ça va très loin. Donc, il y a eu un déversement sur la volonté, en contrepartie. Maintenant, ça compte. Donc, ça, il y a eu ça, plus la crise protestante. Donc, la réaction à la Renaissance, après le Concile de Trente, tout ça, a été au contraire de relatéraliser du côté d'une force rendu à la nature. Là-dessus arrive la Compagnie de Jésus, si vous voulez, qui en a fait beaucoup de ce point de vue. L'humanisme jésuite, c'est ça. C'est-à-dire rendre, voyez, pour reconstruire l'homme chrétien, rendre le socle de la nature qui va permettre ensuite le travail de la grâce. D'où le fait que les collèges jésuites s'occupent de toutes les humanités qui vont permettre ensuite le travail de la grâce. D'où le fait qu'on invente les séminaires qui commencent par un temps de philosophie suivi d'un temps de théologie, nature puis grâce. Il y a deux étages successifs. On commence par la nature pour arriver à la grâce. Et ça se répercute dans nos siècles de délabrement culturel, dans la pastorale qu'on a subie il y a quelques décennies, où il ne faut surtout jamais ne parler. On est en collège catholique à 5000 balles par an, avec des curés partout. Et il ne faut jamais parler du Christ, on va parler de l'homme, et ensuite, à l'aumônerie, on sera 3 sur 5000, on parlera peut-être du Christ. Mais c'était cohérent. C'était une caricature, mais c'était cohérent. On parle d'abord de la nature, puis de la grâce, si on peut, s'il en reste. Bon. Mais oui. Sauf qu'au début, c'est que des curés. C'est les curés parlent aux curés. C'est Suarez parlant au séminariste jésuite. Donc ça reste un exercice scolaire. On ne parle que de la nature, mais on est tous entre nous. En fait, c'est de la nature qui est théologisée par des théologiens, pour des théologiens. Mais à force, ça se laïcise. Hein. Et puis après tout, comme dit le père de Lubac, ça a fait le lit de la sécularisation du XVIIIe siècle et de l'athéisme, hein, à force de parler de la nature et de parler de la grâce après. Il y a un moment où la nature dit « Bon, bah, écoutez, j'ai pas besoin de vous. Hein. » Je me suffis à moi-même. En fait, toutes ces histoires de laïcité et de sécularisation, c'est une invention de théologien, de ce point de vue. On remet la nature au premier plan, la grâce devient facultative. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, les maurassiens veulent rétablir les théologiens qui croient à ça. Maurras, c'est ça, la politique pour tous, la foi pour certains. La foi sera d'autant plus permise que la politique aura tout mis en place. C'est la même idée, la nature puis la grâce. Et la thèse de Lubac en consistait à dire, un, chez saint Thomas, c'est pas du tout ça. Deux, les thomistes qui ont prétendu, parce qu'il est plus augustinien, les thomistes qui ont prétendu que ça venait de saint Thomas disaient le contraire de Thomas, et consciemment. Le premier, c'est Denis le Chartreux, qui n'était pas un dominicain, qui n'était pas thomiste non plus, avait inventé cette histoire de nature pure, c'est-à-dire considérée étanche avant la grâce, contre Thomas. Bon, Et un siècle après, Cajetan, grand commentateur thomiste dominicain, transmue cette doctrine en disant que c'est du Thomas. Il ne pouvait pas ne pas le savoir. Donc il a fait exprès. Vous voyez, et ça a donné lieu, si vous voulez, à deux étages de la fusée, la nature d'abord, la grâce ensuite. Ben oui, mais dans les choses de la foi, la grâce précède toujours, quand même, sinon on n'y arrive jamais. Ou alors on fait semblant comme en catéchèse, vous voyez, on est censé parler de la Trinité, le chapitre hyper simple en catéchèse, alors on va vous faire faire des dessins et vous allez parler de votre expérience de Dieu. Bien sûr, vous allez arriver à la Trinité, mais comment donc? Si vous allez vous y arriver, si vous étiez au courant, donc en fait on triche. C'est qu'en fait la grâce précédait quand même, ou alors la séance de catéchèse n'a servi à rien. Mais je pense que ce système nature-grâce, d'une nature intacte, oui, enfin, considéré sans la question de son état par rapport à la grâce, close, complète, clé en main, avant la grâce, c'est ça qui a structuré la modernité. Et Thomas, en fait, n'y entre pas. Il est sur un point d'équilibre ultime avant que ça s'accentue dans un sens. Et le fait de le rétablir dans cette pose, donc contre une certaine modernité qui se voulait pro-thomiste, c'est ça qui a valu des ennuis au père de Lubac, qui avait parfaitement raison du point de vue de son analyse.
Il était jésuite, lui.
Il était jésuite, lui. Et je lui rends un très grand hommage.
C'est beau.
Mais bien sûr. Oui, je vous en prie. Ah non, peut-être. Ouais, peut-être, oui, laissez la parole à quelqu'un d'autre. Oui, je vous en prie.
Ma question est proche de la première question que vous avez parlé, c'est début. Que dit la théologie de ce qu'est le jugement dernier? Parce que je ne pense pas que ce n'est pas une cour d'appel, on revient tous pour reprendre la même sentence. Donc vous allez me dire que la foi nous dit un truc et ensuite qu'est-ce que la théologie essaie d'en dire?
Elle ne peut rien dire de plus que ce que dit pour le coup les textes du Nouveau Testament sont quand même assez nets. Le Christ reviendra juger les vivants et les morts, donc en fait il confirmera dans leur jugement ceux qui ont déjà été jugés compte tenu du fait que c'est la fin du monde, que c'est la résurrection des corps et qu'il y a une manifestation à la fois du Christ comme Dieu et homme, à la vue de tous, dans la communauté de l'Église, et j'allais dire, les uns et les autres au vu de tous, il y a un élément public. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire, ce qui a été jugé est jugé. Hein.
C'est bizarre de devoir confirmer ce qui ne peut pas être mis en doute.
Non, mais c'est simplement, c'est rendu public de manière plus éclatante, plus définitive, compte tenu de tous les éléments et de manière définitive, enfin. Avec tout le monde dans son état final, là, on est...
Est-ce qu'on ne peut pas dire, d'ailleurs, qu'au fond, cette manifestation mutuelle est un plus?
Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr.
Déjà,
tout à fait. Bien sûr, ce qui apporte, c'est pour nous, le fait de récupérer notre corps, de juger ceux qui étaient un peu en retard, et la manifestation à la fois ecclésiale et universelle, c'est ça le plus. Avec, je ne sais plus si c'est dans Saint Thomas que j'ai vu, je ne sais pas quoi, ces jours-ci, je finis par tout mélanger, la présence presque physique du Christ ressuscité qui se trouve être le juge public, visible de tous, au détriment des damnés et des démons, enfin, qui voient ce qu'ils détestent le plus, enfin, d'une certaine manière. Donc,
il y a un élément de publicité qui n'est pas encore présent dans le jugement.
Mais pas complètement.
Tout seul face à Dieu. Puis...
Ah, pas tout seul, c'est
déjà.
Tiens, le mari à sa femme, t'es là aussi. Ah, ouais. Je pensais y échapper. Non, c'est déjà ecclésial. Parce que le salut est christique et ecclésial. Mais il y a une manifestation plus grande. Et je pense que le paramètre de la manifestation est capital, pour le coup, dans toute l'œuvre du Christ. Ça fait partie des choses que je voulais vous dire. C'est le début de la troisième partie de la somme de théologie, donc la remontée qui se fait dans et par le Christ. Et les petits prologues, les petits chapeaux de démarrage de saint Thomas dit le Christ, je ne sais plus la tournure de la phrase, par sa passion et par sa mort, par son incarnation, sa passion et sa mort, il est venu rendre manifeste les mystères divins et le dessein divin à notre propos. Au fond, tout ce qu'a fait le Christ en prenant chair, en subissant la passion, la mort, tout ça, c'est pas d'abord pour satisfaire, il n'y a même pas besoin, c'est pour rendre manifeste, c'est pour nous le montrer, c'est complètement un coup de pub. Vous voyez, enfin, c'est pour nous le rendre visible. Ensuite, les actes qu'il a vécu, accepté de vivre passivement et activement, sont là justement pour nous le rendre visible de manière très concrète. Mais c'était en rien nécessitant. du point de vue de Dieu, il aurait pu nous sauver d'ailleurs sans rien faire du tout, comme ça, enfin, depuis le ciel. Mais l'œuvre de manifestation, et je pense que la résurrection finale y participe, à cette manifestation ultime, et je pense qu'il y a quelque chose de ça dans l'œuvre de toute théologie. Elle est là pour manifester la foi le mieux possible. Elle ne prouve rien. Elle ne prouve pas la foi, ce serait en abolir le mérite, comme dit Thomas. Elle n'est pas là, vous voyez, pour renforcer quoi que ce soit. Elle est là pour manifester des choses qui sont dites et manifester les liens intelligibles. Parce que je me souviens d'un sondage dans La Vie sur ce à quoi croient les catholiques en France. C'était bien. Hein. Croyez-vous au péché originel ? Non, massivement. Bon. Croyez-vous en l'Immaculée Conception ? Oui. La même proportion de français. Le lien intelligible n'était pas immédiat. Mais au fond, c'est simple. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire là. Mais je pense que l'œuvre du théologien est capitale parce qu'elle touche aux énoncés. Elle est là pour manifester. C'est à la fois très précis parce que c'est rigoureux. Quoi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dégraisser. Et en même temps, on ne prouve rien. Enfin, on n'est pas là pour donner une sorte de support rationnel et scientifique à une sorte de sous-philosophie qui veut se présenter comme une sur-philosophie. Vous voyez ? Comme si elle avait besoin d'étais, hein, en danger. Mais ça, ce danger-là a été perçu, je pense, à la Renaissance aussi. Je ne sais plus où j'avais lu ça. À la Renaissance, on vient de découvrir un nouveau monde, d'une part, donc ça traumatise tout le monde, il faut intégrer tout. Et puis d'autre part, les sciences, enfin, la vraie science au sens moderne, a pris un coup de bond énorme. Et donc du coup, la reine des sciences, qui est censée être la théologie, voire même la métaphysique, qui était la reine des sciences, un peu écrasée par la précédente, parce que deux reines des sciences, ça fait quand même une de trop. Enfin, admettons, disons, la fine pointe de la pensée humaine en a pris un coup. Et donc la tentation a été, d'accentuer le côté rationnel pour montrer que quand même, on reste au niveau scientifique. Par angoisse que ça apparaisse trop peu scientifique, par souci apologétique, mal placé d'une certaine manière. Vous voyez qu'on est aussi fort que les autres. C'est peut-être pas une bonne idée. Alors aujourd'hui, pour le coup, en théologie, on serait plutôt dans un peu comme en philosophie d'ailleurs, dans la tendance inverse. Il y a quand même une fuite, enfin une déconstruction de la raison qui atteint tant la philosophie, qui s'émiette énormément, que même la théologie. Je ne suis pas sûr qu'une théologie purement pratique, sociologique, contextuelle, sociologique, sans en avoir les atours d'ailleurs, serve à quoi que ce soit. C'est du blabla. Donc il faut quand même, il faut pouvoir argumenter et creuser un problème et éliminer ce qui ne va pas. Ça ne peut pas être un échange, fût-il au plus beau niveau, de très beaux textes de la tradition chrétienne seulement. C'est pas de la littérature sous ce rapport, même s'il y a de très beaux textes qui sont eux-mêmes littéraires. La théologie, c'est autre chose qu'un collage des plus beaux textes des pères ou des théologiens. Parce que moi, j'ai Saint Grégoire, toi, tu as trouvé Saint Augustin. Alors, c'est beau parce que c'est beau, mais ça répond pas aux questions, hein. Donc il faut quand même un minimum de rigueur. Il faut tout tenir ensemble dans un certain équilibre, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, la théologie en a pris un coup. Elle a tellement, peut-être un peu trop fait du point de vue de la raison, qu'aujourd'hui, elle n'en fait pas assez. C'est quand même un peu mou du genou, aujourd'hui, quand même, hein, les raisonnements théologiques. Oui, sauf si quelqu'un qui n'avait pas parlé... Pardon. Oui,
je vous en prie. Je voudrais vous dire sur ce que vous avez dit à propos du jugement dernier. Si ce jugement dernier est une manifestation du Christ... Est-ce que ça veut dire que les damnés vont jouir de la vision béatifique, ne serait-ce qu'un court instant ?
Ah non, non.
Si la connaissance avait vraiment...
Non, alors ils ne verront pas Dieu, mais ils verront sur eux les effets de la gloire du Christ. De toute façon, il ne faut peut-être pas qu'on en fasse trop, si vous voulez. Mais oui, il faut être très prudent. Mais oui. Non, si. Saint Thomas en parle à un moment, justement, la manifestation du Christ dans sa gloire. Mais si c'est le Christ, c'est ça dans sa nature humaine. Donc ça n'est pas pour eux le fait de voir Dieu. Mais enfin, je ne sais pas, à dire le vrai, s'ils verront le Christ dans son corps. Mais quoi qu'il en soit de ce point, ils sentiront son triomphe, son règne et sa présence de Dieu-homme, si vous voulez. Ils seront renseignés de la chose. qu'il la voit ou qu'il ne la voit pas. Et cela même exercera sur eux une pression considérable. Disons que ça va leur faire un peu chaud au fondement, quoi. C'est plus que d'habitude. Enfin, étant entendu que l'enfer des damnés, c'est quoi au fond? C'est pas une métaphore. Hein. Le feu, c'est quoi le feu? Eux qui n'ont pas de corps. Ben, c'est l'amour de Dieu pour eux et l'amour qui aurait dû être le leur, en tant qu'ils le refusent. Ce qui les brûle, c'est la haine. Vous voyez, c'est l'amour que Dieu a pour eux, parce que c'est inscrit dans leur être. Et leur refus de cette situation, c'est insupportable. C'est, ils refusent le plan de Dieu sur eux. Et c'est ce qui aurait dû être, voyez, une chaleur d'amour, enfin, voyez, une intensité d'amour, devient le feu de la haine. En fait, le feu de l'enfer, c'est la haine. C'est leur haine. Et oui. Ben, un peu comme un adolescent, si vous voulez, qui un jour se regarde devant la glace et plus que jamais, c'est la première fois qu'il se le dit comme ça, il trouve qu'il ressemble terriblement à son père. Et son père est violent, ivrogne, épouvantable à ses yeux. Et il dit, et en plus je lui ressemble. Vous voyez, avec ce que ça peut le marquer physiquement. Et il se met à se haïr soi-même. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire ce qui aurait dû être une source de transmission d'amour devient quelque chose d'insupporté. Ben, le feu de l'enfer, c'est ça. Et donc, il peut y avoir des étapes marquées, un peu comme le fait de l'incarnation elle-même, et donc du triomphe final du Christ, qui, pour les démons, seront un marqueur de leur défaite, puisqu'il y a le triomphe du Christ, il y a donc la défaite accentuée des démons. Je relisais le traité du sort des démons en train, que j'avais déjà lu l'autre jour, j'ai déjà oublié un peu, mais oui, l'idée, c'est celle-là, quand même, c'est-à-dire quelque chose se répercute sur leur refus, alors qu'ils auraient dû accepter et qu'ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont voulu être, ils ont voulu l'être dans le désordre, pas selon l'ordre qui convenable, dit Thomas, c'est-à-dire sans Dieu, mais par eux-mêmes. Ils l'ont, ce qu'ils auraient dû recevoir de Dieu, ils ont voulu l'avoir par eux-mêmes. C'est donc un désordre. Et voilà ce qui était mal pour eux. Ce n'était pas un mal d'ignorance, ils savaient qui était Dieu. Vous voyez, c'est le refus de dépendre. Ce qui introduit en eux le plus grand mal possible, le plus grand désordre possible. Du coup, ils se coupent de la réception de l'amour, puisqu'ils n'en veulent plus, justement, par définition. C'est mystérieux, hein. Mais la haine, ça vous arrivera peut-être d'en ressentir à petit degré vis-à-vis de telle ou telle personne, telle situation. On va dire, c'est pas possible, mais si, c'est très possible. C'est de l'amour inversé, donc... déjà une séparation amoureuse qui se passe très très mal, elle se passe jamais bien, mais qui se passe très très mal parce que ça se déchire vraiment. Enfin, bon. Au-delà de l'acceptable, c'est de la haine. Alors heureusement ça s'estompe après, on en sort grandi, tout ça. Mais sur le moment, c'est quand même de la haine. Tout ce qui était source d'amour devient source de haine. Enfin, on ne supporte plus le quartier où vit l'autre. Et si on vit dans le même quartier, on ne supporte plus d'y vivre, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Tout devient insupportable. Je pense que pour les démons, c'est ça. Hein. Ce qui était fait pour l'amour devient insupportable. Par orgueil. La racine, c'est l'orgueil. Hein. Le fait de vouloir être tout seul. Je ne suis pas. C'est la fin ?